Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour et bienvenue dans cette émission Éclairage qui est consacrée cette semaine au terrorisme et plus particulièrement à la position, la réaction et le travail de l'État français face au terrorisme. Alors pour en parler, nous avons invité autour de cette table aujourd'hui Roland Drago. Bonjour Monsieur Drago. Vous êtes élu à la section droit public et jurisprudence de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous êtes ancien président de cette académie et vous avez entre autres participé à un colloque au Conseil d'État sur le même thème, un compte rendu. D'ailleurs, de ce colloque est disponible dans la revue administrative numéro 340 pour la citer. Notre deuxième invité est Monsieur Alain Larcan. Bonjour Monsieur Larcan. Membre et ancien président de l'Académie de médecine, professeur émérite à l'Université Poincaré à Nancy et ancien directeur du SAMU de la région Lorraine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et troisième personne autour de cette table, Éric Dénessé, bonjour.
Bonjour.
Directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Vous êtes également enseignant en géopolitique à la Sorbonne et en intelligence économique dans plusieurs endroits, plusieurs établissements, par exemple HEC et l'École des Mines. Merci à chacun d'avoir fait le déplacement, d'être ici dans ce studio aujourd'hui. Peut-être une première question pour aborder ce vaste sujet de l'État face au terrorisme, peut-être définir, circonscrire ce que c'est que le terrorisme. C'est vrai que peut-être dans l'imaginaire populaire aujourd'hui, le terrorisme est surtout lié à un terrorisme islamiste, lié aux attentats 2001 aux États-Unis, aux attentats de l'année dernière à Madrid. Est-ce que pour autant l'État a changé son arsenal? Est-ce que le terrorisme, du point de vue de l'État, est aussi un terrorisme islamiste? Ou est-ce que le terrorisme, par exemple, basque ou corse, a encore toute sa place? Monsieur Drago.
Oui, vous avez raison de poser cette question. Et c'était d'ailleurs un des thèmes de ce colloque qui a eu lieu au Conseil d'État, qui était un colloque historique, n'est-ce pas, qui portait sur le rôle historique de l'État depuis le Moyen-Âge et peut-être même avant. Parce que on a le sentiment que pendant longtemps, le terrorisme était individuel, qu'il visait des rois, qu'il visait des personnages importants, et que c'était seulement en arrière-plan qu'il y avait quelques groupes qui étaient en train d'agir pour renverser un régime, pour faire disparaître un tyran. Or, actuellement, le mot terrorisme, parce que le mot terreur a quand même un sens très général, est en train de changer complètement de sens. À quel moment exactement a-t-il changé de sens? C'est une question qu'on peut se poser. À quel moment est-il devenu alors ce terrorisme de masse qui cherche à faire peur, qui utilise évidemment l'aspect médiatique de ces événements d'une façon vraiment absolue, car sans médias, on se dit qu'il n'aurait peut-être pas la portée qu'il a actuellement. À quel moment la transformation s'est faite? Moi, je pense qu'il a pu se faire au moment de la Seconde Guerre mondiale avec le développement des mouvements de résistance. C'est un peu comme cela qu'on peut le concevoir. Mais
des mouvements de résistance qui étaient d'ailleurs qualifiés de terrorisme à l'époque.
Exactement, c'est le mot qui était employé par les Allemands, en effet. Et par conséquent, est-ce que c'est à ce moment que se situe le tournant? Mais il est probable que c'est plus tard, peut-être dans ces mouvements qui sont apparus en Allemagne et en Italie à certains moments. Et puis, en effet, comme vous le dites, il y a quand même le problème corse ou le problème basque. Il n'empêche que ce terrorisme basque ou corse n'a jamais cherché à créer, à avoir une vision catastrophique, une action catastrophique qui fasse peur à tout le monde. Autrement, tandis que le terrorisme tel que on l'a vu à New York en 2001 est destiné évidemment à créer une impression considérable dans un pays avec des morts en quantité importante. Et par conséquent, le basculement s'est-il fait à ce moment? En tout cas, vous le voyez, il y a eu un changement complet dans le comportement même et dans le sens du mot.
Est-ce que le basculement s'est fait au moment du détournement d'avion de la compagnie El Al par le Front de libération de la Palestine, par exemple, Éric Dénessé?
C'est très difficile de définir un seuil, effectivement, dans quelques années, comme pour la définition des grandes périodes historiques, on arrivera à définir quel était le passage. Je pense que Il y a plusieurs façons de voir le terrorisme. Il y a la finalité, et vous le disiez, M. Drago l'expliquait très bien. Et puis, il y a la technique. C'est-à-dire que pour nous, militaires, policiers, qui travaillons contre les terroristes, eh bien, c'est les méthodes qui vont nous intéresser. Et ce qui est nouveau, c'est qu'à côté des méthodes de guerre classiques qu'on a connues jusqu'à ces dernières années, il y a eu la guerre nucléaire, qui est une guerre, entre guillemets, pousse-bouton. Il y avait ensuite les guerres non conventionnelles, c'est-à-dire les guérillas, les résistances, où il y avait combat. Le terrorisme, c'est l'usage de la violence sans combat. C'est quelque chose de très particulier qui, notamment, était essentiellement lié à des pratiques urbaines et de plus en plus à l'utilisation des médias. Alors, si on doit peut-être choisir un seuil ou une période de transformation, c'est comment les gens qui utilisent la terreur sans combattre, sans combat militaire, j'entends, sans combat direct, pour faire, pour la victoire de leurs intérêts, sont capables d'utiliser en même temps les médias pour terroriser les populations sous l'angle de l'impact psychologique.
Monsieur Darcan,
je voudrais ajouter peut-être une nuance en ce qui concerne les guerres que l'on considère aujourd'hui comme tout à fait infranucléaires et non classiques, qui sont ce qu'on appelle les guerres asymétriques. Et de ce fait, il y a malgré tout, même dans le terrorisme, quels qu'en soient les buts et les finalités, une sorte de réaction, je dirais, du faible au fort. Et le faible est susceptible, éventuellement, de faire mal au fort. Deuxième notion, je crois que c'est votre confrère, cher ami, Alain Besançon, qui l'a défini en séparant le terrorisme à but limité du terrorisme à but illimité. But limité, c'est, pour ne pas revenir sur le terrorisme basque, parlons même pas du Corse, mais c'est le terrorisme irlandais. Quand l'indépendance est acquise, en principe, le terrorisme peut disparaître. Tandis que dans le terrorisme islamiste, ou dans le terrorisme, disons, des théologies anarchistes, de mécanismes anarchiques, c'est illimité. Et comme vous le disiez, le terrorisme de masse utilise le moteur de la peur, compte sur le levier des médias, est condamné à la surenchère et a comme volonté de désorganiser la société. Et de ce fait, le simple élément d'en parler et le simple élément de prendre des mesures, quelquefois non pas disproportionnées, mais quand même très importantes par rapport à la menace, et on peut dire que le terrorisme a, dans une certaine mesure, déjà gagné.
Est-ce qu'on ne peut pas dire, à la suite de Régis Debray, que le terrorisme en tant que substantif n'existe pas, il n'y a qu'une action terroriste, qui serait de plus en plus floue quand on voit, par exemple, les revendications du groupement AZF qui semble un peu démesurée, dont on ne voit pas très bien les origines. Le terrorisme, c'est peut-être aussi d'abord ce que l'État désigne comme tel. C'est une notion un peu floue comme ça.
Oui, est-ce que vous ne voulez pas quand même distinguer le terrorisme déclaré avec des faits terroristes et des conséquences, c'est-à-dire en général des dégâts matériels et des victimes, la simple menace et souvent du chantage? Je trouve qu'un des phénomènes actuels les plus importants, c'est le chantage au terrorisme.
Monsieur Drago ?
Oui, c'est tout à fait vrai, et c'est lié évidemment à la médiatisation dont on a parlé tout à l'heure. Les deux questions sont liées. En fait, le terrorisme sans médiatisation n'aurait pas de sens et il devrait adopter d'autres formes. Alors là, il y a un point de vue que j'avais soutenu dans cette étude que j'avais faite en disant c'est la nouvelle forme de la guerre. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est la nouvelle forme de la guerre? Les guerres de type classique avec déclarations, réglementations, tout un droit de la guerre, ces guerres-là ont disparu, ou en tout cas, elles n'ont plus qu'une place relativement limitée. La seule dont on puisse vraiment parler, c'est la guerre des États-Unis à l'égard de l'Irak, parce que les autres guerres de type la guerre de 14, de la guerre de 40, n'apparaissent plus. Et par conséquent, est-ce que le terrorisme remplace les guerres? Je ne crois pas, parce qu'il a des bases différentes, il a des moyens différents. Et surtout, Il y a une chose qui est très caractéristique, qui a déjà été abordée, un aspect qui a déjà été abordé, c'est qu'il est sans fin. On ne voit pas comment une guerre s'arrête, il y a un vainqueur, un vaincu. Est-ce qu'on peut parler de victoires contre le terrorisme, des victoires partielles, bien entendu, on en a, on arrête des gens, on les condamne, mais une victoire totale paraît presque incompréhensible. Et alors je voudrais ajouter, mais c'est peut-être un peu différent, on pourra y revenir, que la seule faiblesse du terrorisme, et tant mieux, c'est qu'il est souvent divisé. Et ces divisions contre lui-même me paraissent être une chance à certains égards, en tout cas un facteur de faiblesse. Mais on pourra y revenir si vous voulez bien.
Monsieur Larcon, moi j'aimerais revenir sur ce que vous disiez juste avant. On parlait de menaces, de risques ou de faits réels. Effectivement, vous qui êtes à l'Académie de médecine, qu'en est-il par exemple de la menace biologique, la menace chimique ?
Alors malgré tout, revenons sur la distinction risque-menace. Il y a des risques naturels, il y a des risques techniques et... Dans la médecine de catastrophe, nous apprenons à parler des risques humains que sont les paniques de foule, les émeutes de stade ou ailleurs, ce qui est proche de la guérilla, la prise d'otages et bien entendu les attentats, en particulier les attentats collectifs. Alors, d'un côté... pour les risques classiques d'une épidémie ou les risques naturels, on peut dire que on peut faire un calcul aléatoire. Le risque peut être quantifié et de ce fait, en fonction de l'occurrence et de la gravité de ce risque, on peut, dans une certaine mesure, s'y préparer, mais en sachant que la menace a un caractère... Le risque a un caractère statistique. Par contre, la menace, à partir du moment où c'est délibéré, voulu, il faut savoir, non pas l'évaluer, mais l'identifier. Et c'est assez différent. L'évaluation statistique et l'identification d'une menace réelle.
Alors, qu'en est-il alors pour la menace biologique, chimique, depuis 1995 et la secte Aoun dans les métros de Tokyo?
Sur ce point, et très rapidement, le terrorisme, dans 99% des cas, dans tous les exemples récents, y compris les exemples parisiens, rue Marbeuf, rue Copernic, Orly, Saint-Michel, Port-Royal et rue de Rennes, c'est un terrorisme pyrotechnique utilisant des explosifs, des bombes, tout ce que l'on veut. Et le terrorisme atomique, je n'en connais pas actuellement d'exemple. Le terrorisme chimique, le cas évidemment le plus récent, c'est ce qui s'est passé à Tokyo avec la secte Aoun, qui a utilisé un neurotoxique, un organophosphoré, le sarin. Ça a fait quand même un certain nombre de morts et un très grand nombre de victimes. Ça aurait pu en faire davantage, mais l'organisation était un petit peu artisanale. Et en ce qui concerne le terrorisme biologique, en dehors de quelques éléments que je qualifierais presque de folkloriques, les sucres de von Rosen ou autres, il y a eu des attentats ciblés, l'attentat contre Heydrich avec une toxine botulinique et l'attentat contre Markov à Londres avec de la ricine. Ce sont des assassinats par moyens chimiques, mais dans l'état actuel des choses, je ne vois pas d'autres exemples. Donc ça reste extrêmement limité. La menace subsiste, bien sûr, puisque l'arme chimique et toute une série de toxiques peuvent être utilisées. Quant à la menace biologique, qui est probablement la plus grave, car qu'il s'agisse de la variole ou de la diffusion d'une toxine botulinique dans les eaux urbaines, évidemment, cette menace est une menace considérable, mais jusqu'à présent, je dirais heureusement, cela reste possible et j'espère improbable.
Nous marquons tout de suite une pause, on se retrouve tout de suite pour cette émission éclairage sur l'État face au terrorisme.
Canal Académie.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie. Toutes les générations se retrouvent sur Canal Académie. Parce que l'histoire est un éternel recommencement, chaque génération enrichit son présent et son futur. Académiciens et élèves de grandes écoles se retrouvent quotidiennement autour du micro de Canal Académie pour échanger leur point de vue sur un thème choisi. Un thème, un académicien, des élèves. Plusieurs générations se rencontrent, toutes se retrouvent. Écoutez-les sur Canal Académie, la première radio académique francophone. www.canalacademie.com. On retrouve Priscille Lafitte.
Nous sommes donc en compagnie d'Alain Larcan, d'Éric Dénessé et Roland Drago pour cette émission consacrée à l'État face au terrorisme. Nous parlions de risques, de menaces et de faits réels. Qu'en est-il ? Et surtout, qu'est-ce que l'État prend en compte pour s'organiser ? Est-ce que c'est le risque maximal qui prend en compte, comme ça l'est aux États-Unis d'ailleurs ?
Oui, mais la notion de risque n'est pas prise en compte par l'État de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que l'État prend en compte un risque. L'État est confronté à des menaces. Il y a des éléments d'information qui permettent de dire que ces menaces sont plus ou moins importantes. Mais il n'y a pas bien qu'il existe un plan Vigipirate, on ne peut pas dire qu'il y ait une échelle de risque en fonction de laquelle l'État est amené à réagir. Alors, ça sous-entend une notion d'information préalable. Mais avant la notion d'information préalable, ce que disait M. Larcan, ça nécessite l'identification de la menace et donc on est dans une logique de renseignement qui n'est définie qu'en fonction des directions que donne l'État.
Par exemple, quand on voit aux États-Unis, il me semble que chaque département aussi va requérir le budget en fonction de ces scénarios impossibles, au détriment peut-être d'une analyse peut-être plus en profondeur sur les causalités des risques. Est-ce qu'il y a la même dérive en France ? Est-ce que vous partagez cette analyse aux États-Unis ?
Non, c'est pas du tout la façon dont ça se passe aux États-Unis. Et de toute façon, nous n'avons pas la même dérive en France puisque nous ne faisons pas de prospective. À partir du moment où on veut faire du renseignement sur une menace, les services de renseignement sont incapables eux-mêmes de définir ce qu'est la menace. Donc il faut que le politique, grâce à des think tanks ou à des structures qui font de la prospective, soit capable de lui donner la direction dans laquelle il doit regarder. À ce moment-là, les gens du renseignement sont capables de recueillir des signaux d'alerte. Les Américains le font, ils le font plus ou moins bien. En tout cas, ils ont les moyens de le faire. On ne le fait pas en France, il faut le reconnaître, parce que nous n'avons pas les moyens financiers et ce n'est pas dans notre démarche politique et ce n'est surtout pas dans notre esprit, dans notre culture nationale.
Est-ce que, du coup, l'arsenal judiciaire et législatif qu'il y a aujourd'hui est suffisant à vos yeux ? Et je poserai aussi la question à M. Drago.
Paradoxalement, oui. Notre arsenal est bien adapté aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est que l'ordonnance de 59, avec les différents états de siège, états de crise mis en place, nous permet de réagir face à une menace terroriste sans en arriver aux excès qui sont ceux de la société américaine aujourd'hui, où on peut être détenu pendant une semaine sans aucun avocat, où tout le monde est mis sur écoute, toutes les bases de données. Les Américains sont en situation de guerre d'une manière tout à fait comparable à celle que les Britanniques ont connue entre 40 et 45 lorsque l'Europe était occupée. La deuxième raison pour laquelle nous sommes bien armés en France, c'est que il faut rappeler que depuis les années 78, nous sommes le premier pays qui a lutté contre le terrorisme islamique. 78, c'était la première intervention au Liban. 79, le GIGN intervient pour remettre de l'ordre à la mosquée de la Mecque. En 80, commence la guerre contre l'Irak. Et donc, nous sommes en première ligne contre le terrorisme syrien dans un premier temps, puis iranien dans un deuxième temps. La décennie 90, c'est le prolongement sur notre sol des attentes, de la lutte qui se livre en Algérie. Et depuis 2000, c'est Al-Qaïda. Donc, nos services et essentiellement nos services de police, beaucoup plus que nos services d'enseignement, sont habitués à ça. L'effet pervers, c'est que parce que nous sommes plus habitués, que nous avons un système qui le permet, c'est que ça donne l'impression que nous nous exonérons de toute réforme. À une époque où les Américains et les Britanniques augmentent leur budget de plus de 50%, revoient tout, font vraiment une réflexion fondamentale sur le rôle que peut jouer le renseignement dans la protection des intérêts de l'État, la France est très très en retard.
Monsieur Drago ?
Oui, bon, j'ai la même opinion. Il est vrai qu'on a un appareil juridique qui est tout à fait à sa place, et depuis longtemps, vous avez parlé de l'état de siège, d'état d'urgence, il y a des gradations possibles, mais ce sont des systèmes de police, n'est-ce pas, de système de police, de prévention ou de répression immédiate de la part de la police. Or, je crois qu'on est entré dans un domaine qui échappe à la police au sens strict du mot et qui nous fait entrer dans un domaine qui est militaire, si on veut employer cette expression. C'est pourquoi vous avez parlé, et moi aussi j'adhère à ce mot, au mot de renseignement. Il y a un problème de renseignement qu'on devrait avoir et qui impliquerait que les services militaires eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui sont chargés du renseignement, s'adaptent, et je suis bien sûr qu'elles le font, qu'ils le font, mais pas au point où on pourrait supposer que le risque est quand même si considérable qu'il suppose une révolution dans la technique du renseignement. Je ne sais pas si les Américains sont arrivés à ce point de révolution du service de renseignement. Pensez à ce qu'étaient les services de renseignement à la veille de la guerre de 1914 et à ce qu'ils devraient être aujourd'hui. Il est évident qu'il y a une mutation complète qui est en train de se faire ou qui devrait se faire.
Il y a pourtant aussi des tensions entre la DST et la justice. Parfois, il y a des intérêts qui sont quand même divergents. On arrive à certaines anomalies qui devraient être effacées ou ça fait partie du cours des choses?
Ça fait partie du cours des choses. Il n'y a pas un pays dans lequel les services ne se tirent pas entre les pattes. Le politique l'exploite plus ou moins délibérément. C'est toujours important d'éviter que les pouvoirs de police et de renseignement soient concentrés entre les mêmes mains. La seule chose qui fait qu'un service ou qu'un pays a moins de tensions, c'est la façon dont il est engagé dans un conflit. Les Britanniques au moment de l'Irlande du Nord, les Israéliens avec leurs problèmes actuels ou la France en Algérie arrivaient à fonctionner à peu près correctement parce que la pression était très forte. C'est vrai que les guerres de police ressortent en temps de paix quand la menace est moindre de manière un peu plus marquée.
Est-ce que une des dérives aussi qui est possible, c'est une dérive un peu sociétale, c'est-à-dire que par exemple on l'a vu en 95, et là je suis le raisonnement de Monsieur Vivorka sur cette question. Il a souligné le fait que il manquait une analyse réellement sur les causes du terrorisme et que la population immigrée ou de deuxième génération était très vite stigmatisée. Au dépend d'une analyse de fond sur le pourquoi de ces dérives, de cette radicalisation.
Là, vous me posez une question d'ordre sociologique à laquelle, oui, finalement, je ne suis pas tout à fait apte à répondre. Ce qui est certain, c'est que, là encore, le rôle des médias est considérable. Et il faut savoir si l'attentat se produit dans un milieu que je qualifierais de favorable à l'attentat ou, au contraire, en milieu très réticent et hostile. Et les réactions de la population sont quand même très, très, très différentes. Alors, il y a un effet d'entraînement et en effet, il peut y avoir une tentation du lynchage, au moins médiatique, d'une catégorie de population. Et ça, c'est tout à fait préjudiciable quand, en plus, cette catégorie de population n'est pas du tout responsable de l'attentat en question. Mais je ne suis pas là vraiment spécialiste de ce problème.
Est-ce que quelqu'un veut bien répondre là-dessus tout le problème de délit de faciès dont on avait parlé en 1995?
Il y a quelque chose de très amusant. Le ministre de l'Intérieur britannique a déclaré il y a quelques jours qu'il fallait que s'attendre à ce que les communautés arabo-musulmanes de Grande-Bretagne, c'est essentiellement les Saoudiens, les Pakistanais, les Yéménites, soient contrôlés 3 à 4 fois plus que les gens de race blanche, parce que malheureusement le terrorisme islamiste pour 95% de ces manifestations réside dans les communautés d'origine du Moyen-Orient. Alors ça a fait un peu un esclandre, mais il a voulu prévenir les gens en disant que ce ne sera pas uniquement du délit de faciès, mais dans le travail de nos services de police, vu que 95% du danger vient de cette origine, nous serons probablement amenés à commettre quelques erreurs, mais il a essayé de l'expliquer. Le problème du terrorisme n'est pas un problème de police. On compare souvent la lutte antiterroriste à un marécage avec les moustiques. Si on déverse des tonnes de DDT sur le marécage, on tuera peut-être les moustiques, mais tant qu'on n'assèche pas le marais, le problème du terrorisme restera tout à fait prégnant. Et aujourd'hui, ce n'est pas par des méthodes policières que nous allons régler nos problèmes de banlieue. C'est un problème très complexe, c'est un problème de réappropriation de la virilité chez les gens d'origine nord-africaine. C'est un problème intragénérationnel avec les gens de la troisième génération. C'est un problème problème de romantisme révolutionnaire tel que peuvent le connaître les jeunes gens de 18 ans et un problème d'intégration dans la société. C'est beaucoup plus large que le seul problème policier.
Oui, parce que le terrorisme aujourd'hui, on en parlait, M. Drago, est un problème multiple. C'est un problème en France, un problème post-colonial, c'est un problème post-industriel, c'est un problème d'exclusion sociale. Il y a de multiples causes qu'il faut traiter, que l'État doit traiter de façon très différente. C'est très complexe.
Alors on peut avoir une vision très catastrophique, n'est-ce pas, et considérer que, puisque le terrorisme est à dominante musulmane, il s'agirait alors d'un immense mouvement mondial concernant un reflux de la pensée islamique vers les pays qui le sont le moins, c'est-à-dire finalement les pays européens et l'Amérique du Nord. Et par conséquent, dans ce cas-là, alors on se trouverait en présence d'une mutation complète du monde. Je ne crois pas qu'il faille avoir ce point de vue, non seulement parce qu'il est quand même excessif, et ensuite parce qu'il risque de porter atteinte à la dignité de beaucoup de gens, et que par conséquent le problème peut être réglé autrement. Mais alors il est réglé par des procédés, c'est ce que vient de dire monsieur, c'est-à-dire par des procédés qui sont alors des procédés sociaux, des procédés qui relèvent de la citoyenneté, de la vie en commun, du régime des banlieues, etc. On entre alors dans un processus d'ensemble qui supposerait alors une révision complète de la vie en société dans tous les États modernes. Est-ce qu'il y a en Europe des États qui ne sont pas amenés à prendre des mesures de ce genre? Peut-être la Suisse, et encore, je me demande si ça n'existe pas, mais malgré tout, il semble qu'elle soit un peu à l'écart. Mais pour le reste, qu'on prenne l'Allemagne, qu'on prenne le Royaume-Uni et qu'on prenne l'Italie ou la France, bien entendu, on se trouve en présence de situations du même type. Alors, le terrorisme serait finalement le fils de cette invasion, avec des guillemets, de populations extérieures, soit des colonies, soit venant de l'Est ou du Moyen-Orient. C'est quand même alors un problème qui change de nature, qui change d'échelle. Et là, les solutions deviennent alors des solutions politiques. On ne voit pas très bien comment on peut les imaginer pour aboutir à une disparition complète. Quand on parle de la guerre de 14, on dit qu'en août 14, le ministère de l'Intérieur en France avait le carnet B où toutes les listes des gens figuraient. Par conséquent, il s'est agi d'arrêter quelques centaines de personnes et qu'on a été tranquille en ce qui concerne la mobilisation. On ne peut pas imaginer une situation du même genre, ce qui montre qu'on a changé d'échelle.
Avec un risque d'amalgame aussi, de la manière que il y a eu un temps où il y avait un amalgame avec le risque communiste. Tout venait de l'Union soviétique, tout était financé par l'Union soviétique, tous les mouvements de guérilla dans le monde entier. Aujourd'hui, on a le même risque de dire aussi que tout est financé par une sorte de nébuleuse qui s'appellerait Al-Qaïda. Et c'est même facile pour l'État de désigner un tel ennemi.
Et vous avez raison de dire nébuleuse, c'est-à-dire un organisme, une institution, des personnes qui ne sont pas très définissables et qui apparaissent quelquefois, mais c'est un groupe qui est encore complètement indéfini, et c'est de lui que déciderait, c'est de lui que viendraient les décisions, mais il est possible que les décisions viennent d'une infinité de groupes aussi. Autrement dit, le point de départ est déjà lui-même très difficile à situer.
Nous marquons tout de suite une pause, on se retrouve tout de suite pour cette émission éclairage sur l'État face au terrorisme.
Canal Académie.
On retrouve Priscille Lafitte.
Nous reprenons donc notre émission sur l'État face au terrorisme. Disons que si l'État veut faire une politique de contre-terrorisme efficace, il faut qu'elle comprenne d'où vient le terrorisme et non de façon concrète. C'est vrai que finalement, beaucoup des attentats ont été faits à partir de bouts de ficelle. Vous parliez d'attentats pyrotechniques. On voit les attentats de Madrid, ce sont quelques bombinettes qui ont été achetées dans la banlieue de Madrid.
Bien sûr, lutter contre le terrorisme, c'est ce qu'il y a de plus dur au monde. On peut se dire que depuis 3 ans et demi, on a eu des résultats extraordinaires, puisqu'il n'y a eu que 2 attentats dans le monde occidental. Bien sûr, ça a fait un grand nombre de morts, mais ça n'a pas atteint le quart des dégâts qu'a causé la canicule au cours de l'été 2003. Ce qu'il faut voir sur le problème du financement, c'est qu'il n'y a aucun problème de financement, et il est très très dur de lutter contre le financement du terrorisme. Les Américains nous ont un petit peu, amusés avec cette histoire de lutte contre le financement international, parce qu'ils ont bloqué uniquement, à travers la surveillance des comptes internationaux, les quelques gros financements que pouvaient donner les hommes d'affaires saoudiens à certains nombres d'organismes, notamment aux Tchétchènes. Aujourd'hui, on sait que les attentats de Madrid ont coûté 18 000 euros, que les attentats du 11 septembre ont coûté probablement aux alentours de 250 000 euros. Et souvenez-vous, avant Noël, lorsque la police a arrêté Hassan Bouchi, qui était un membre de la famille d'un leader du GIA en France, qui détournait les caisses de billets que l'on met dans les distributeurs automatiques. Il a détourné 1 400 000 euros. C'est-à-dire qu'il a détourné à peu près 7 fois la somme qui a été nécessaire pour les attentats du 11 septembre. Un dealer de banlieue qui fait du trafic de drogue, qui est un petit tête de réseau, fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est-à-dire que les attentats auxquels l'on risque d'être confronté ne sont pas aujourd'hui liés à un problème financier ni à un problème d'approvisionnement en armes ou en explosifs. Et la grande chance, c'est qu'on se dit, qu'est-ce qui peut pousser des individus à passer à l'action? C'est là-dessus qu'on agit, et non pas finalement sur l'aspect matériel, même s'il est aussi surveillé.
Face à cette menace ou à ces risques, comment l'État gère l'opinion publique derrière? Il y a différentes contraintes auxquelles doit faire face l'État. Obtenir par exemple des résultats policiers, et puis éviter dans le même temps la surenchère meurtrière des terroristes. Il faut calmer l'opinion publique et puis en même temps l'informer. En même temps, par exemple, on parlait de l'anthrax. Comment rassurer une opinion publique et puis en même temps ne pas donner trop d'informations parce qu'il y a des risques de perversion?
À partir du moment où la menace est diffuse, un petit peu comme l'emploi de l'arme chimique pendant la guerre, indiscutablement, pour des raisons psychologiques, l'effet de psychose collective est beaucoup plus important pour le terrorisme chimique ou biologique que pour le terrorisme classique. Alors ça, c'est un premier point. J'avoue que je ne crois pas qu'il soit très intéressant de sensibiliser en permanence l'opinion publique à ce risque ou à cette menace de terrorisme, alors que je crois par contre que tous les services officiels, services de police, services de renseignement, services administratifs et bien entendu services de sécurité civile et sanitaire doivent au contraire se préparer à cette menace en souhaitant qu'elle ne se produise pas, même si on est à peu près certain qu'un jour ou l'autre, il y aura un accident de ce type. Alors, il y a quand même 2 variétés d'accidents. Il y a l'accident qui est très spectaculaire. N'oublions pas la phrase de Jenkins, « Le terrorisme, c'est du théâtre ». Donc, c'est spectaculaire, tout le monde en parle, tous les médias sont mobilisés, mais qu'il s'agisse d'un terrorisme pyrotechnique, avec malheureusement un certain nombre de victimes, ou d'un terrorisme chimique, cela reste malgré tout localisé. Si un terroriste, un fou pervers, ayant des moyens et des compétences, voulait faire un terrorisme vraiment de masse et presque un génocide mondial, il n'y a vraiment que 2 méthodes. C'est le terrorisme nucléaire, c'est-à-dire utiliser une bombe atomique, d'une manière ou d'une autre, ou le terrorisme biologique, beaucoup plus d'ailleurs insidieux et difficile à diagnostiquer, puisque ne serait-ce qu'en fonction des contacts avec des personnes qui ne sont pas encore contagieuses, qui sont contagieuses mais qui ne sont pas encore diagnostiquées, la période d'incubation, le diagnostic se fera alors que l'agent aura été répandu un certain nombre d'heures, de jours auparavant. Et donc là, il y a une différence très nette. Alors, je crois que l'essentiel est dans la prévention, renseignement, éviter que les réseaux terroristes ne puissent nuire. Mais quand l'accident, de plus ou moins grande importance, est là, ben, ce sont des moyens de secours traditionnels avec une nuance spécifique quand il s'agit de tel ou tel toxique. Alors, sur ce point, je dois dire, l'État français a réagi avec des moyens assez importants, un engagement financier non négligeable, en ayant un plan Piratome, un plan Piratox et un plan Biotox. Je ne dis pas que ces plans soient inutiles, mais je pense qu'il aurait été presque préférable d'avoir des variantes de nos plans urgence collective, ORSEC, TOX, ORSEC, RAD, ou plan maladie infectieuse, et que, en particulier, les services sanitaires soient aptes, ayant réfléchi à des structures adaptables, à répondre à des urgences collectives. Car le terrorisme pyrotechnique, ce sont des blessés en grand nombre, et des blessés du type blessés de guerre. Le terrorisme chimique, ce sont des chimiques, contaminants, contaminés, intoxiqués. Le terrorisme biologique, ce sont des maladies infectieuses. Et si demain, nous avions, à Dieu ne plaise, la variole, théoriquement totalement éradiquée, et donc des millions de varioleux, mais ce serait peut-être plus grave que certaines autres maladies infectieuses, mais les hôpitaux auraient à faire face, dans les mêmes conditions, à une pandémie grippale qui, elle, n'a rien à voir en principe avec la guerre biologique. Je crois que c'est ce raisonnement plus global, finalement, il faut bien entendu savoir qu'il y a ces menaces.
Est-ce que l'État est prêt aujourd'hui, Yana ? Est-ce que l'État, en sens large, est-ce que les structures
écoutez,
sont...
c'est toujours la même chose. Sur un accident catastrophique à effet limité, moins de 100 victimes, on sait faire. Et on sait faire très bien et très rapidement, quel que soit le risque. Entre 100 et 1000, c'est un peu plus compliqué. Au-delà de 1000, il y a un élément, finalement, d'échelle, et presque, ce n'est plus de degré, une différence de degré, mais une différence de nature, et qui fait qu'il y a disproportion entre ce qui est nécessaire et ce qui est finalement disponible immédiatement, et ça nécessite des renforts, des adaptations, assez difficiles d'ailleurs. Si une bombe atomique arrive sur Paris, évidemment, on ne saura pas plus faire que les Japonais à Hiroshima.
Monsieur Drago, vous vouliez intervenir là-dessus ?
Oui, non pas tellement sur ce point, parce que je pense que ce que dit Monsieur Larcan est complet. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Monsieur Denessé, qui m'a beaucoup frappé, c'est que finalement, le coût, vous l'avez dit, et je vous crois, le coût est finalement assez réduit, et que d'autre part, après tout, ça veut dire que nous avons des services qui fonctionnent relativement bien, en France et ailleurs, puisque, après tout, il n'y a eu que deux attentats particulièrement spectaculaire. On pourrait quand même ajouter ce qui s'est passé en Russie avec des événements qui sont quand même spectaculaires et d'autres qui ont manqué. Mais il n'empêche que nous arrivons aujourd'hui apparemment parce que nous avons justement tous ces moyens, y compris ceux qui préviennent les accidents, à une situation qui est peut-être particulièrement bien organisée. Mais alors dans ce cas-là, ça voudrait dire que des pays qui n'ont pas l'organisation que nous avons, nous, et que sans doute ont les Allemands, les Anglais, les Italiens, les Espagnols, peut-être un peu moins, les autres pays pourraient être plus menacés. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour le moment, nous avons le sentiment, je disais que ça ne finit pas, eh bien nous avons le sentiment que c'est relativement, non pas terminé, mais enfin relativement arrêté sur certains plans. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a vraiment une raison profonde et qui tient aux mesures que nous avons prises, sans quoi tous les pays européens seraient à feu et à sang. Et puis alors, il y a un autre phénomène sur lequel je voudrais revenir, sur lequel on a déjà insisté, c'est que Nous sommes en présence de gens parce que justement, dans l'essentiel, le terrorisme est à base religieuse et d'une religion qui, a, par ses côtés, est extrémiste sur beaucoup de points, de gens qui ne craignent pas la mort, qui se lancent même au-delà de la mort pour aboutir aux résultats qui sont recherchés. Alors là, il y a un phénomène psychologique, un phénomène religieux, un phénomène métaphysique, que sais-je, qui est très caractéristique et de cette religion et malgré tout de tous les pays dans lesquels se trouvent des représentants de cette religion. C'est un phénomène très particulier et qui mérite d'être exploité. Puis alors enfin, je voudrais que on puisse revenir sur la question que je posais tout à l'heure. Est-ce que nos chances ne sont pas dans les divisions qui existent à l'intérieur des groupes terroristes? Ça, c'est peut-être un phénomène à examiner.
Et il y a des phénomènes de radicalisation dans tous les mouvements qu'on puisse imaginer, M. Denessé.
Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, quand même, 99% des risques d'attentats sont liés au terrorisme djihadiste. Qui est
99%,
vous dites ? Oui, parce que, j'insiste bien, c'est un terrorisme salafiste.
Dans le monde.
Quand on regarde la quantité d'attentats, c'est... Mais on voit se développer progressivement d'autres mouvements qui sont à même, soit ils ont commencé à le faire, soit ils seront à même à terme d'utiliser les mêmes techniques de terreur pour promouvoir leurs idées ou faire aboutir leurs intérêts. Et je dirais qu'il y a une espèce de perméabilité des méthodes et des pratiques qui se fait, notamment par Internet et grâce aux médias aussi. Ce qui fait que des groupes qui ont des idéologies totalement différentes dans des régions... qui se trouvent à l'opposé des continents, vont utiliser les mêmes méthodes pour faire aboutir leur quête. Et c'est vrai que ce qui émerge dans nos pays occidentaux depuis une quinzaine d'années, c'est ce qu'on appelle les mouvements de contestation sociétaux. Alors ce sont les anti-avortements, les anti-pubs, les éco-terroristes, les anti-vivisections, qui ont commencé d'abord à manifester d'une façon tout à fait classique, à organiser des manifestations parfois un petit peu plus violentes. Et puis progressivement, des groupuscules au sein de ces mouvements passent à l'action armée, soit par des kidnappings, soit par des attentats ponctuels. Et ce sont des sujets qui sont très suivis en France, en Grande-Bretagne notamment, et que l'on peut craindre de voir se développer progressivement dans les années qui viennent.
Oui, c'est une crainte, parce que quand on voit l'état des choses aujourd'hui, par exemple, tous ceux qui ont été condamnés aujourd'hui pour des attentats sont essentiellement, dans les prisons françaises, il y a essentiellement des terroristes basques et corses à l'heure d'aujourd'hui. Donc on parle pas plus, c'est pas plus une crainte pour l'avenir que des faits réels.
Ben, on a affaire à autant d'origine d'action terroriste.
C'est-à-dire d'exagération ou de surmédiatisation.
Il y a un phénomène de médiatisation, d'hypermédiatisation, mais ce qui se passe, c'est que les différents mouvements, qu'ils soient autonomistes, indépendantistes ou violents, vont utiliser la terreur pour faire aboutir leurs intérêts, puisque c'est à chaque fois une minorité qui a donc besoin d'un écho important. Après, on les caractérise de terroristes en fonction de la position dans laquelle on se trouve. Mais la montée en puissance des terroristes autonomiste, pour l'instant, n'est pas...
C'est plutôt un phénomène passé, vous trouvez ?
C'est un phénomène constant, sur une échelle relativement basse, sans commune mesure avec le terrorisme islamique, et sans commune mesure avec ce que l'on voit se préparer sur le terrorisme sociétal.
C'est la troisième partie de notre débat sur l'État face au terrorisme. On se retrouve tout de suite.
Thank you.
retrouve Priscille Lafitte.
Nous reprenons donc notre émission sur l'État face au terrorisme. C'est la quatrième partie de cette émission. Pour parler de l'Union européenne cette fois-ci, l'Union européenne a fait de gros progrès, entre guillemets, ou du moins de grandes avancées en termes de coopération entre les différents États. Depuis le 11 septembre, il y a eu des avancées en termes de mandat d'arrêt européen, de reconnaissance mutuelle en matière pénale et civile. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, Monsieur Drago?
Ah, moi je ne connais pas d'autres mesures que celles dont vous avez parlé. Il est bien certain qu'il y a des accords et des réunions, on le voit bien, à propos de ces problèmes concernant l'Union européenne, mais les moyens d'action sont d'une façon générale des moyens nationaux et je ne sais pas, mais ça il faudrait peut-être poser la question à d'autres personnes, je ne sais pas s'il y a des moyens qui permettent de une coordination certainement, mais une action unique de l'Union européenne en dehors de ses caractéristiques générales, ça j'en ai pas connaissance et peut-être d'ailleurs qu'il n'est pas bon de le dire de façon publique, je n'en sais rien. En tout cas, ça ne me paraît pas être, en dehors de ses fonctions normales, un lieu dans lequel des mesures efficaces peuvent être prises.
Il y a eu un conseil, une sorte de groupe d'échange qui a été créé au lendemain de 2001, de l'attentat de 2001, qui d'ailleurs n'a marché que 6 mois, parce qu'il y avait très peu d'échanges qui passaient d'un état à l'autre. Il y a un problème réel d'échange des fichiers. Qu'est-ce qui vous en semble, M. Dénessé? Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à faire?
Alors, les États doivent d'abord se débrouiller seuls. La lutte contre le terrorisme, elle est soit nationale, soit internationale. Elle n'est pas au niveau européen. Qu'on ait un certain nombre de coopérations européennes, c'est important. Mais aujourd'hui, lorsqu'on est sur une enquête contre terroristes, on va surveiller peut-être un terroriste du GIEC qui passe par nos banlieues. Il va quitter la France pour se rendre directement en Tunisie, d'où il ira au Moyen-Orient. Donc, ça dépasse le seul cadre européen. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait non pas une coordination, mais une interconnexion. C'est-à-dire qu'on a changé d'échelle. On ne parle plus de coordination du renseignement, on parle d'interconnexion. C'est-à-dire que les gens doivent échanger en temps réel entre les services de police, entre les gardes frontières, au niveau international. L'échelle européenne ne représente pas une dimension en la matière qui s'intègre. Alors après, effectivement, il y a l'espace Schengen, il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place. Elle relève plus du toilettage et de l'affichage politique que de l'efficacité de la lutte antiterroriste. Et surtout quand on nomme un Néerlandais, Monsieur De Vries, qui est un homme tout à fait remarquable, mais quand on connaît la conception de la sécurité qui existe aux Pays-Bas, la façon dont ils conçoivent les travaux de police, on est inquiet parce que c'est effectivement pas du tout la mentalité dont on a besoin pour faire de la lutte antiterroriste.
Il y a pourtant besoin d'un système d'alerte, si j'ai bien compris. Il n'existait pas lors des attentats de Madrid l'année dernière.
Mais un système d'alerte européen ne sert à rien. Chaque pays doit éviter l'attentat qui peut se présenter sur son sol. C'est pas ni un système européen, ni mondial, ni latino-américain qui changera quoi que ce soit.
Monsieur Drago,
nous avons un exemple, mais qui en effet est international et qui n'est pas européen, et qui manifeste une réussite relative pour autant que le problème à résoudre ait été un problème de terrorisme. C'est l'exemple de l'Afghanistan. Là, nous avons une réussite très relative, je le reconnais, mais qui n'a pas été génératrice de terrorisme et qui a quand même mis fin en partie, avec toutes sortes de lacunes et toutes sortes d'impossibilités au terrorisme. Mais nous avons là quand même, dans l'opération décidée par les Nations Unies, contrôlée par les Nations Unies, par des formations militaires dans un pays qui était dominé par le terrorisme, une forme très particulière du terrorisme, j'en conviens, on a quand même un exemple de réussite. C'est la seule qui puisse être vraiment mise à l'actif de l'organisation internationale sur ce point et qui est visible. Je reconnais que c'est un exemple qui est minime parce que les résultats ne sont pas évidemment très spectaculaires. Il n'empêche que on a là une sorte de modalité, une sorte d'exemple qui permet de montrer que certaines possibilités d'action sont possibles. Je ne sais pas ce qu'on en pense, mais il me semble que celui-ci est une réussite.
Est-ce que finalement une inflation administrative, ça permet, il n'y a pas aussi un risque d'inflation législative, une inflation budgétaire? On sait que Europol a augmenté son budget de 50% à la suite des attentats de 2001. Bon, ça crée de la paperasse, comme on dit.
Oui, et puis c'est un échelon inutile. C'est-à-dire que si on fait de la coordination, alors Europol a d'autres fonctions hein, quand même. C'est de la police judiciaire et il y a Eurojust aussi en matière de justice. C'est un peu comme Interpol. Mais si on passe par des échelons intermédiaires de cette nature pour échanger, on perd un temps fou. C'est pour ça qu'on est beaucoup plus dans une logique d'interconnexion où n'importe quel service doit parler avec n'importe quel autre service à l'autre bout de la planète et que l'échelon, je dirais, continental n'a pas de sens. Là où nous ne réfléchissons pas assez, à mon sens, ni en France ni en Europe, c'est sur la protection des données personnelles. Vous savez qu'on a en France une législation qui s'appelle la CNIL, qui est extrêmement dure, qui est plus dure que la loi européenne sur la protection des données personnelles. C'est-à-dire que nous devrions amender notre loi pour nous mettre au niveau des autres Européens. Et je pense que en fonction de la menace terroriste qui existe aujourd'hui, il va falloir avoir un débat sur des suspensions ponctuelles et partielles d'un certain nombre de libertés publiques pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, la police n'a pas le droit d'utiliser les informations détenues par certaines bases de données qui permettent de lutter contre le terrorisme. Par exemple, si un groupe d'étudiants islamistes à l'université de Nanterre s'inscrivent en droit de manière tout à fait fictive pour pouvoir être sur le territoire national et qu'on découvre qu'à la bibliothèque, ils n'empruntent que des livres de chimie qui leur permettent de fabriquer des explosifs, juridiquement, la police française n'a pas le droit d'avoir accès à ce fichier informatique qui est sur la bibliothèque de Nanterre. Alors, c'est merveilleux en termes de protection des données personnelles et on doit s'en réjouir en tant que citoyen français, mais quand on vit sous une menace, il faut trouver, comme par exemple on a un certain nombre de choses autour de l'état de siège et l'état d'urgence, peut-être des amodiations pour pouvoir contourner ces difficultés.
C'est vrai que c'est un point très important, d'autant plus si l'on considère que c'est une guerre entre guillemets de très long terme, qu'on n'en voit pas le bout. Par exemple, j'ai retrouvé les propos de Roy Jenkins justement en 1974, qui avait institué une nouvelle loi pour justement de prévention du terrorisme, qui était assez restrictive au niveau des libertés. Elle est toujours en place aujourd'hui. Et il dit, si j'avais su qu'elle serait toujours en place, jamais je ne l'aurais votée. Je pensais qu'elle allait durer uniquement 2 ans. On voit aussi de même dérives, on peut dire liberticides, aux États-Unis. De quel côté se placer, monsieur?
C'est le problème aussi de la nature et de la durée de ces mesures. Ne parlons pas de Guantanamo et autres. Et malgré tout, on peut se dire que l'effet du 11 septembre a entraîné en effet des conséquences juridiques impensables chez les Américains. Pour revenir à un problème plus scientifique qui vient d'être finalement, on vient d'y faire allusion, et le problème dans le fond des banques de données, Internet, comme toujours le meilleur et le pire, n'oublions pas que sur Internet, il y a tous les renseignements qu'un technicien d'un certain niveau est susceptible d'utiliser concernant le génome des virus et des germes les plus dangereux qui soient. Et on n'en a pas parlé. C'est à mon avis un risque qui n'est pas entièrement fictif, le super-terrorisme, c'est-à-dire l'utilisation de produits biologiques entièrement nouveaux. Des hybrides associant des toxicités ou des résistances aux vaccins ou des résistances aux antibiotiques. N'oublions pas aussi, et ce n'est pas de la science-fiction, que les États-Unis ont développé des insectes avec, comme toujours, les applications susceptibles d'être très intéressantes pour l'humanité, mais des insectes robots qui peuvent parfaitement remonter des canalisations à contre-courant et éventuellement être porteurs de germes mortels. Et n'oublions pas aussi que quand l'Irak disposait ce que l'on appelle les armes à destruction massive, qu'on appelait autrefois tout simplement les armes spéciales, quand j'étais en service militaire, on appelait ça les armes spéciales, armes de destruction massive, l'Irak en a eu, il les a détruits, je le crois, mais il a commandé ses armes biologiques en France et aux États-Unis, sur catalogue, sans qu'il y ait le moindre contrôle. Les échanges scientifiques, il n'y avait pas de menace particulière, l'attention n'était pas attirée, mais on manipulait vraiment quelque chose d'extrêmement dangereux.
Monsieur Drago, aussi un mot sur où mettre le curseur entre sécurité et liberté.
Vous avez raison, la question a été posée de façon très claire et vous avez raison de la poser. Je pense à la CNIL, n'est-ce pas ? La CNIL a été créée en 78, ça paraît être une époque bénie où des problèmes de ce genre ne se posaient pas. On en avait d'autres, en effet, c'était quand même une époque qui suivait la guerre d'Algérie, etc. Il n'empêche qu'on est sorti d'un monde. Alors, en effet, vous avez raison, il y a un problème qui se pose et qui est un problème majeur. C'est un problème des droits des citoyens au regard d'une situation de ce genre. Alors, évidemment, la logique révolutionnaire, c'était la patrie en danger. Par conséquent, tous les droits sont disparus et il n'y a plus que le pouvoir d'action contre des ennemis. Mais en cas de guerre, on peut imaginer cela parce que les ennemis sont bien visibles, ils ont des uniformes, ils ont des positions, etc. Limiter tous les droits au détriment d'ennemis qu'on ne sait pas isolés, qu'on ne sait pas manifester, vous avez raison. La loi sur l'état de siège permet de donner les pouvoirs à l'autorité militaire. La loi sur l'état d'urgence permet quand même, elle a même 3 degrés, par conséquent, on peut imaginer un certain nombre de restrictions des droits. Imaginez ce que on pourrait dire sans que, évidemment, on ne puisse invoquer un accident immédiat. Imaginez ce que l'on pourrait dire dans la presse, notamment, à propos d'une restriction des droits en ce qui concerne la lutte contre des actions de ce genre. C'est impossible psychologiquement et politiquement d'imaginer une restriction des droits, sauf alors à se cacher, pour lutter contre un terrorisme de ce type. S'il arrivait un malheur, une catastrophe épouvantable, on pourrait l'imaginer. C'est la justification que les Américains ont donnée pour Guantanamo. Et vous avez vu que le monde entier, et à juste titre, à certains égards, au regard des droits que les Américains possèdent et qu'ils ont eux-mêmes participé à consacrer dans l'histoire, eh bien, imaginez ce que l'on pourrait dire si, d'un jour à l'autre en France, on se mettait à restreindre aussi bien la liberté de la presse que la liberté d'expression, que la liberté d'aller et venir, des libertés de ce genre qui sont considérées comme fondamentales. La lutte sur ce terrain est impossible dans le contexte actuel. On ne peut pas imaginer une restriction des droits, sauf alors à augmenter les pouvoirs des services de renseignement ou des services de police, mais dans un domaine qui est évidemment très restreint et qui tient à certains modes d'emploi. C'est tout ce qu'on peut imaginer.
Monsieur Drago, je vous ai laissé le mot de la fin. C'était donc une émission éclairage avec pour thème l'État face au terrorisme. Je remercie nos 3 intervenants, Alain Larcan, Éric Dénessé et Roland Drago. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.